Après le credo, les grands conciles. Une émission proposée par Mgr Jean-Pierre Battu.
Le brigandage d'Éphèse. La phase de conciliation inaugurée entre Cyril et Jean d'Antioche par l'acte d'union rédigé par ce dernier était la traduction d'une bonne volonté réciproque, mais elle laissait en suspens d'importants problèmes théologiques, en particulier la dangereuse formule « l'unique nature incarnée du Dieu Verbe » que Cyril avait mise à l'honneur en croyant qu'elle était d'Athanase, alors qu'en réalité, elle était d'Apollinaire. C'est ainsi que l'évêque Alexandre de Hiérapolis, en Syrie, écrivait à l'un de ses correspondants « Cyril est hérétique quand il enseigne une seule nature du Christ, à laquelle il attribue toutes les passions et la mort elle-même, tout en disant que le Verbe de Dieu demeure immuable et inaccessible à toute passion, selon sa propre nature, il réintroduit frauduleusement la passion quand il dit que le Dieu Verbe s'est fait chair et non pas a assumé un homme. » Cet évêque avait tort, bien sûr, de s'en prendre à l'expression « le Verbe s'est fait chair » puisqu'elle est de saint Jean. Mais il avait raison d'être réticent devant le langage de l'unique nature, qui est pour le moins ambigu. En même temps, comme on peut le voir, il s'obstinait à dire que le Verbe a assumé un homme, comme si l'homme Jésus existait avant l'incarnation. Décidément, il devenait urgent de clarifier enfin le vocabulaire qu'employaient les uns et les autres. Avant sa mort, Cyril avait entrepris de le faire de manière laborieuse, puisque le mot « nature » n'était pas clair dans son esprit. Il parlait donc d'une rencontre dans l'unité qui s'était produite à partir de deux natures, sans préciser davantage ce qui restait des deux natures après l'union. Il fallait que quelqu'un mette les pieds dans le plat, et ce sera Eutychès qui s'en chargera, avec sa théologie pour le moins caricaturale. Eutychès, comme nous l'avons vu, était un vieux moine, archimandrite, c'est-à-dire chef d'une communauté de 300 moines, et proche de la cour de Constantinople par son filleul Chrysaphe, un haut fonctionnaire de l'empereur. À défaut d'être un vrai théologien, il était intrigant. Il réussit ainsi à circonvenir Dioscore d'Alexandrie, qui était loin d'avoir les compétences de son prédécesseur Cyril, et qui, de surcroît, était ambitieux et sans scrupules. Il écrivit même au nouveau pape, Léon, pour le mettre en garde en affirmant que la doctrine de Nestorius relevait la tête. Et Léon, pape depuis 440 et encore mal informé, ne répondit qu'en termes assez vagues. Voilà pour Eutychès très doué pour les intrigues. Mais il était moins doué pour la théologie. Il ne sait que répéter « Après l'union, il n'y a qu'une seule nature ». Cette hérésie, qui ne voit plus que la nature divine dans le Christ, est restée dans l'histoire sous le nom de « monophysisme ». Et comme le nestorianisme, dont elle est l'exact opposé, elle a poussé ses branches jusqu'à aujourd'hui, nous y reviendrons. Les gesticulations d'Eutychès vont finir par contraindre Flavien, patriarche de Constantinople, de la nécessité d'intervenir. Il tente d'abord de dialoguer avec ce vieux moine entêté, mais rien n'y fait. Il le convoque alors devant le synode permanent qui se tient à Constantinople. Ce fut toute une affaire, dit un historien, que d'obtenir la présence du saint homme. Il se retrancha derrière son vœu de réclusion. Il allégua son état de maladie. Il multiplia les difficultés. Il finit par se présenter le 22 novembre 448, escorté d'une multitude de moines et de fonctionnaires. Par ceci apparaissait à tous les yeux la protection du chambellan Chrysaphe. À chaque question posée, Eutychès répond toujours de la même manière. « Il n'y a qu'une seule nature après l'union. » Voilà toute sa christologie. De guerre lasse, le synode condamne la doctrine du moine. Mais Eutychès ne dépose pas les armes. Il en appelle au pape Léon, à Dioscore d'Alexandrie et à d'autres évêques. Il se lamente en protestant contre l'exclusion d'un homme comme lui qui a passé 70 ans de sa vie dans la continence et la chasteté et qui ne connaît pas d'autre foi que celle de Nicée. Le patriarche Flavien écrit alors au pape Léon, qui commence à s'irriter de n'être pas tenu au courant, pour lui exposer objectivement les erreurs de Tychès en ces termes, je cite. « Il a persisté à nier que notre Seigneur Jésus-Christ, après l'incarnation, est de deux natures, à dire que la chair du Seigneur ne nous est pas consubstantielle, que la Vierge qu'il a enfantée selon la chair est consubstantielle à nous, mais que le Seigneur n'a pas pris d'elle une chair consubstantielle à nous, et que le corps du Seigneur n'est pas un corps d'homme. » Enfin, correctement informé, le pape Léon félicite Flavien pour la décision prise et il lui annonce qu'il lui fera connaître ses décisions en temps utile. Mais les décisions vont venir d'ailleurs, et Léon va être pris de court par l'empereur. Le faible Théodose II s'est en effet laissé monter la tête par son entourage, et il a décidé de voler au secours du pauvre Tychès. Comment ? Évidemment, en convoquant un concile. Dioscore d'Alexandrie n'est pas étranger à cette décision que Théodose concrétise en convoquant le concile à Éphèse pour le 1er août 449, avec 10 archevêques métropolitains et 10 évêques égyptiens. Pour respecter les formes, il invite tout de même aussi l'évêque de Rome à participer. Mais, à peine la lettre d'invitation reçue, le pape Léon répond à Théodose qu'il ne pourra pas venir en personne à cause de la situation politique, car à ce moment même, les Huns, commandés par Attila, déferle sur ce qui reste de l'Empire d'Occident. Dans le même courrier, Léon annonce son intention d'envoyer des légats au concile et il assure qu'ils sauront faire preuve d'objectivité et de clémence. Il termine en promettant de faire parvenir à Flavien un exposé complet de la foi de l'Église en l'incarnation du Verbe. Cet exposé théologique, effectivement envoyé au patriarche de Constantinople, est resté célèbre sous le nom de Tome à Flavien. Tome veut dire lettre. C'est un des textes dogmatiques les plus importants de toute l'histoire de l'Église. Mais avant d'en parler, il faut dire tout de suite que dans un premier temps, il allait rester lettre morte, car le concile convoqué par Théodose était entièrement manipulé par Eutychès et par ses partisans. Théodose avait décidé à l'avance que Dioscore d'Alexandrie présiderait le concile, et que les évêques qui avaient condamné Eutychès pourraient y assister, mais sans droit de vote. D'emblée, il était clair que le but recherché était tout simplement la réhabilitation d'Eutychès et la condamnation de Flavien. L'assemblée, constituée de 130 évêques, se réunit dans la même église où s'était tenu le concile d'Éphèse 18 ans plus tôt. Tout de suite, Flavien et les évêques qui lui sont favorables sont réduits au silence. On ne lit même pas la lettre du pape. Et ces légats, qui ne savent pas le grec et ne peuvent se faire entendre, se voient refuser la présidence de l'assemblée, qui est attribuée d'office à Dioscore. Eutychès paraît, il excite l'assemblée contre les partisans de Flavien et il obtient sans coup férir sa réhabilitation et la condamnation de Flavien. C'est alors un grand tapage. Des évêques, comprenant qu'ils ont été joués, s'approchent de Dioscore, se jettent à ses pieds, saisissent ses genoux, le conjure de rien faire d'irrégulier. Se voyant ainsi entouré, le patriarche appelle les agents de l'empereur qui font ouvrir les portes de l'église. Les soldats, l'épée nue, les moines, la foule envahissent la basilique. Flavien, qui en appelle au siège du prince des apôtres, est entouré par les soldats. Il essaie de se réfugier près de l'autel, on l'en empêche, et on cherche à le tirer hors de l'église. Il réussit cependant à se dégager et à se cacher dans une dépendance de l'église où il est gardé à vue. Hilaire, un des légats du pape, réussit alors à s'enfuir et à regagner Rome. L'autre légat disparaît et Flavien, envoyé en exil, mourra, dit-on, en cours de route, des mauvais traitements qu'il a subis. On comprend pourquoi le pape Léon a qualifié de brigandage, en latin latrocinium, ce honteux rassemblement d'Éphèse. Un de ses biographes s'étonne d'ailleurs qu'on n'ait pas osé aller jusqu'à excommunier le pape lui-même. Hilaire, le légat qui avait réussi à s'échapper, deviendra lui-même, 12 ans plus tard, le 46e pape de l'histoire de l'Église. Mais pour l'heure, arrivé à Rome en septembre, il informe en détail le pape Léon de tout ce qui s'est passé. On imagine la consternation de Léon. Il réunit sans tarder des évêques et il envoie des courriers un peu partout en Orient, y compris à Flavien, qu'il croit encore vivant et qui est déjà mort. Il exige de Théodose qu'il annule le brigandage d'Éphèse et qu'il convoque un synode général en Italie cette fois pour échapper aux pressions politiques. Mais ces lettres de Léon, et d'autres qu'il enverra plus tard, restent sans réponse. Léon demande alors à l'empereur d'Occident d'écrire lui-même à son collègue, et Théodose finit par répondre en affirmant que tout s'est passé à Éphèse de la façon la plus régulière qui soit. C'est en quelque sorte circulé, il n'y a rien à voir. Et c'est maintenant au tour de Léon de s'abstenir de répondre. Mais il revient à la charge le 16 juillet, quand il apprend qu'un nouveau patriarche a été élu à Constantinople pour succéder au malheureux Flavien. Il écrit de nouveau à Théodose pour exiger que ce nouveau patriarche, qui s'appelle Anatole, manifeste clairement son adhésion à ce que lui, Léon, appelle la vérité catholique et qui est contenue dans la lettre à Flavien. Saint Léon donc ne plie pas et il prend grand soin par ailleurs de faire connaître sa lettre un peu partout en Occident. Mais la lettre du 16 juillet ne devait pas atteindre son destinataire. Le 28 juillet, Théodose meurt d'une chute de cheval. Un accident, disent certains, trop opportun pour être fortuit. En tout cas, comme la mort de Valens 80 ans plus tôt, la mort de Théodose II va changer complètement le cours des événements.